Affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous d'Étoiles plein les yeux, c'est votre émission de cinéma sur Transistor et on se retrouve cette semaine pour le 99e numéro de l'émission qui sera consacré à Donbass du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa. Et puis ensuite, pas de coup de projecteur cette semaine, le projecteur est en panne, mais on ira quand même du côté des sorties ciné cette semaine et de quelques conseils à vous donner avec évidemment le début du festival Lumière ce week-end. L'étoile, donc, cette semaine, la toile, c'est Donbass de Loznitsa, et les yeux, ce sont ceux de Maë et de Mathilde.
Ребята, кто командир?
Вот он командир!
Я командир. Вон, малый командир.
Я?
Нет.
Кто командир?
Ну, ребята... Я командир.
Мне позвонили, сказали, машину нашли.
Ну и?
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать.
Voilà, aujourd'hui nous parlons donc de Donbass de Sergueï Loznitsa, un film qui, comme vous l'avez pu entendre dans ce bout de bande-annonce, ne manque certainement pas d'animation. Nous sommes en Ukraine, dans cette portion de l'Ukraine occupée par la Russie. Et dans cette immense satire en une quinzaine de tableaux, le réalisateur filme des scénettes, des sketchs, des courtes séquences et dénonce l'occupation russe tout simplement dans ces scènes particulièrement grotesques, assez chères au réalisateur pour celles et ceux qui auraient déjà vu Une femme douce l'an dernier. Et je me tourne donc vers vous, Maë et Mathilde, suite à ce résumé assez piteux, pour que vous nous en disiez un petit peu plus.
Bon, alors, j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que... juste grâce au décor, en fait, vous savez, ce décor d'Europe de l'Est complètement déprimant et grotesque et laid, cette sorte d'esthétique là qui revient, et je j'adore ce genre de choses. Il y a une sorte de, c'est ça, pendant les longs plans séquences, n'est-ce pas? Il y a une sorte de...
Et puisque chaque séquence est filmée en plan séquence, comme deux d'entre nous viennent de le découvrir.
Voilà, et en fait, il y a quelque chose vraiment de déprimant et de grotesque qui ressort de tout ça. On voit tout le ridicule de ces paysages, de ces constructions humaines, de ces visages aussi, de ces rituels, de ces rites, je pense au mariage en fait, surtout à ce moment-là, de toutes ces personnes en fait qui nous renvoient à la propre débilité de nos coutumes, de nos paysages, nos trucs un peu plus propres et prétendument jolis, mais en fait tout aussi laid que ces décors d'Europe de l'Est. Et en fait, je sais pas, j'adore, pendant tout le film, je trouve que en fait, c'est le pessimisme du regard que le réalisateur porte sur le monde est apaisant.
On te retrouve bien là, Maë. Mathilde.
Alors pour ma part, j'ai aussi bien aimé, mais donc je qualifierais le film avant tout d'un film instable à différents points de vue. D'abord, on change toujours, on l'a dit, c'est 12 sketchs différents, donc en fait le spectateur n'a pas le temps de s'installer dans une situation avant que la situation ne change. Du coup, on a du mal à comprendre qui est qui. Moi, j'ai eu du mal au début, je comprenais pas les situations, jusqu'à ce que j'accepte le principe. Et à partir du moment où on accepte ce petit côté déroutant des situations, on comprend qu'en fait c'est la force du film de nous mettre dans une position inconfortable tout le temps. Donc le film devient vraiment une zone d'inconfort où où tout le monde est suspect en fait. Parce qu'en fait le film alterne dans les camps. Enfin, on est du côté des Russes à un moment donné, puis du côté des Ukrainiens. Et à partir du moment où on comprend plus qui est qui, on en vient à soupçonner tout le monde d'être le méchant de la situation, quoi. Voilà. Donc cette instabilité de la narration montre aussi l'absurdité du conflit. En fait, on ne sait plus dans quel camp on se trouve, pour finalement arriver à dépeindre juste l'homme, l'humain, quel que soit son camp, un humain transformé par la guerre et qui est devenu complètement haineux et complètement moche, comme le disait Maé. On a aussi une instabilité du point de vue des tons. On a, tu l'as dit, quelque chose de tragique, et puis des trucs très, très euphoriques, voilà, du côté de la farce par moment. Donc j'ai trouvé ça très efficace parce qu'on a des ruptures de ton assez fréquentes, et du coup ça rend les ruptures de ton absolument spectaculaires et efficaces, quoi. Et on a enfin une instabilité aussi dans le dispositif de la caméra. On a des plans très soignés parfois et des plans caméra à l'épaule où on est plus du côté du reportage. Donc cette alternance et ce jeu entre les dispositifs de fiction et plus de documentaire se retrouve aussi dans l'interrogation du film autour de ce qui est factice, de ce qui est vrai, ce qui est masqué, ce qui est maquillé. Le film commence et termine sur une séquence de maquillage. Donc on est toujours dans l'interrogation de qu'est-ce qui est vrai dans la société de l'après-vérité, selon les mots du réalisateur. Et donc je conclurai ma petite critique en disant que... même si le film est constitué de ruptures, la richesse du film, et on s'en rend compte quand on sort du film, c'est qu'il est porté par une énergie, la même énergie pendant 2 heures, une énergie bouillonnante, terrifiante, qui est celle des pays en guerre. On a, par exemple, pour moi, le plus terrifiant, ça a été la scène du mariage, qui est une scène d'euphorie générale. Tout le monde est mort de rire en se mariant, on se promet de rester toute la vie ensemble, et c'est une grosse blague, quoi. Et donc, on croit plus en rien. Voilà, c'est le bonheur est factice et le rire témoigne d'un déraillement total. Donc c'est pour moi ce qui m'a le plus terrifié dans le film. Et voilà, tout le film est porté par une énergie du désespoir, y compris dans le rire, et c'est ça que j'ai trouvé assez fort.
Eh bien alors, je suis complètement d'accord. C'est déjà quelque chose qui m'avait fasciné dans Une femme douce, qui reste pour moi un peu le chef-d'œuvre du réalisateur, peut-être encore un poil plus que Donbass, mais enfin quand même. C'est c'est ce réalisateur qui vient du documentaire, qui avant ses deux films avait principalement fait des documentaires, et ça se voit dans sa façon de filmer. Et c'est vraiment une farce filmée par un documentariste. On a l'impression que le metteur en scène et celui qui filme ne sont pas les mêmes. Que c'est cette espèce de série de sketchs, mais oui, avec une image très très documentaire, et c'est ça qui fait ressortir cette espèce de laideur des paysages et des êtres humains dont tu parles, Maé, parce que c'est filmé avec une espèce de vérité dans l'image qui est très très déstabilisante. À côté de ça, on a des scènes qui dans cette rupture permanente et dans la violence qu'elle nous inflige, évidemment, nous renvoie à nous-mêmes. Il y a cette scène où une espèce de vieillard qui était manifestement cuistot dans les forces d'un côté était attrapé par ceux de l'autre et se fait tabasser, qui est quand même une scène qui est extrêmement violente, qui dure assez longtemps, et qui nous montre une espèce d'humanité désarticulée, déshumanisé, qui est toujours dans un rire complètement grotesque. Et cette scène du mariage, qui est la scène pivot du film, qui est vraiment la scène centrale, où j'y ai vu un mariage d'une Ukraine débile avec une Russie un petit peu avilie aussi. Je ne sais pas si c'est mes lectures un peu qui vont un petit peu loin, mais je trouve qu'il y avait vraiment de ça, cette espèce de grande farce, et puis on unit les peuples sous un prétexte quelconque, mais en fait, finalement, c'est juste parce que ça va comme ça et parce que finalement, l'humanité est un peu dégénérée sur les bords. Et oui, non, c'est terrifiant. Il n'y a pas plus terrifiant que ces moments où on rit, parce qu'en fait, il y a une scène qui justement se joue des codes du reportage un peu pathos, où on est dans une espèce d'abri anti-bombe, et où on voit des personnages qui montrent leurs conditions de vie, à quel point c'est terrible. On voit les larmes perler au coin de l'œil du personnage qui parle. Et puis ça dégénère en farce, d'ailleurs c'est le bout qu'on entendait avec les hurlements dans la bande-annonce, et ça devient n'importe quoi, une espèce de femme richissime qui entre et qui se met à faire n'importe quoi, toujours ce dérapage, tout est explosé, quoi, et avec toute une série de... de raccords qui mettent en lumière ce grotesque. On a ces soldats ultra virils dont la virilité est complètement tournée en ridicule, et derrière on a une espèce de commandante qui les fait tous se déshabiller au milieu de la neige, et cette espèce de contrepoint bizarre entre les deux dont on sait pas exactement ce qu'il veut dire. Enfin, il y a tous ces éléments quoi, qui contribuent à en faire, alors, d'une part, un film, c'est vrai qu'on suit pendant 2 heures jusqu'à cette scène finale qui rappelle la première, qu'on va pas vous raconter, mais qui est quand même vraiment intelligente. Y a quelque chose dans le message et dans le fait de renvoyer tout, y compris le propre cinéma du réalisateur, au factice, qui vraiment rend le monde et le film nul et non avenu. Enfin, vraiment l'air de dire, mais qu'est-ce que vous foutiez là depuis 2 heures? Et puis, à côté de ça, la charge politique est d'une violence telle qu'on en a rarement vu. C'est par ce grotesque, c'est quand même un brûlot anti-russe assez violent de la part d'un réalisateur ukrainien.
Anti-russe et anti-militariste surtout.
Oui. Bah,
quand même, moi, justement, sur ce point-là, vous avez tous les deux souligné l'Ukraine transformée par la guerre, etc. Moi, j'ai l'impression que la guerre est juste un prétexte à montrer ce grotesque-là de l'humanité et de ces personnes. Et notamment, tu dis justement qu'il a dit « qu'est-ce qui est vrai dans la société après la vérité », c'est ça ?
La société de l'après-vérité. Oui.
De l'après-vérité, enfin, mais en tout cas... Dans le mariage, par exemple, tu dis que c'est une scène cynique qui nous montre le grotesque de cette Ukraine désarticulée ou je sais pas quoi. Mais pour moi, cette scène-là, en fait, c'est facile de tomber dans notre regard occidental, de dire « Oh là là, c'est vraiment grotesque, ils rigolent, c'est vulgaire, etc. » Mais en fait, moi, ce que j'y vois, c'est que c'est tout aussi grotesque qu'un mariage super propre, super calme, oui, machin, avec bac en fond. Et en fait, pour moi, c'est ça que montre le film. C'est vraiment... Au départ, on tombe dans ce regard critique en se disant « oui, c'est quand même vraiment vulgaire, grotesque, oh là là, les gros machos, les gros durs, oh là là, les bonnes femmes habillées comme ça, oh là là, regarde ces villes, ce pays est complètement détruit par la guerre ». Et puis après, en fait, on se dit « ouais, mais en fait, là, ce qu'on nous montre, c'est nous d'une manière un peu différente, d'une manière peut-être un peu qui n'est pas dans l'esthétique qu'on nous connaît, qui n'est pas dans nos codes d'occidentaux, français, etc. Mais... qui en fait ne vaut pas moins ni mieux que nous. Enfin, on est tous aussi les rares.
J'ai pas ressenti le choc Europe occidentale et Europe de l'Est. Enfin, il dépeint surtout un pays en guerre. Enfin, que ce soit en Ukraine ou en Espagne, je sais pas, le traitement reste le même. Enfin, il montre un humain complètement bouffé par cette situation.
Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est que le grotesque ne dépend pas de la guerre.
Ah, mais
il
ça,
était là avant, il sera là après.
Ça, je sais pas.
On est bien d'accord là-dessus. Alors. Enfin, il y a clairement une partie qui est quand même liée à je pense, même son expérience personnelle dans son pays. Et il y a quelques éléments qui ne sont pas détachables du fait que c'est quand même la Russie qui envahit l'Ukraine. Mais clairement, le gros de la charge est quand même porté vis-à-vis de l'humanité tout entière.
Oui.
Là aussi, c'est quelque chose qui excusez-moi, mais je rabâche, mais qui est aussi éclairé par son précédent film et une autre scène centrale qui ressemblait à cette scène de mariage, et qui là aussi était une espèce d'explosion très félinienne de trucs qui partaient dans tous les sens. Et oui, non, clairement, la portée est bien plus loin que la petite politiquerie locale, et c'est un petit peu le côté peut-être aussi, enfin, désarticulé de ces sociétés qu'il essaye de montrer, quoi.
Oui, et aussi. Ce que je trouvais bon, pas trop de rapport avec le côté grotesque, mais sur le côté purement formel des plans séquences, bon, moi j'aimais beaucoup effectivement ce côté-là, qui les scènes s'éternisent, on en a marre, et en fait la manière dont elles étaient coupées à chaque fois avec cette coupure brutale qui intervient à un moment qu'on ne comprend pas trop, et qui en même temps a toujours un lien souvent avec la scène suivante, notamment la voiture qui s'en va au fond du paysage, et paf, on est dans la voiture, et enfin bon, c'est pas d'une subtilité extrême, mais j'ai bien aimé.
Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a des raccords entre les sketchs, et c'est peut-être ce qui t'a dérouté peut-être un peu au départ, parce qu'il y a quand même des raccords, mais en fait, on passe vraiment du coq à l'âne par des biais un peu artificiels. Ouais. Bref, on vous conseille donc, sans concession, Donbass de Sergueï Loznitsa, qui est encore en salle en ce moment à Lyon. « Et comme nous vous le disions en annonce, pas de coup de projecteur cette semaine, et pour cause, le cinéma, la vie normale du cinéma s'interrompt un petit peu cette semaine à Lyon avec le Festival Lumière. Mais avant ça, donc quelques petits conseils de sortie. Pour celles et ceux qui voudraient aller au cinéma tout de suite et ne pas attendre samedi, et la sortie qu'on vous présente cette semaine, c'est L'amour flou de Roman Boringer et Philippe Rebaud qui suivent Roman et Philippe, un couple qui se sépare après 10 ans de vie commune, 2 enfants et un chien. Ils ne sont plus amoureux, mais s'aiment bien quand même beaucoup, beaucoup trop pour se séparer. Bref, c'est flou, alors sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un sépartement, à savoir 2 appartements séparés, communiquant par la chambre de leurs enfants. Peut-on se séparer ensemble? C'est la question à laquelle tente, pas très sérieusement, de répondre cette comédie dont je vous propose d'écouter tout de suite un bout de bande-annonce.
T'es venu avec le chien?
Mais c'est elle qui a voulu venir, c'est pas...
Un immeuble neuf, 2 plateaux nus en béton. Et on va relier ces 2 plateaux nus par la chambre de nos enfants.
Nos enfants seront pas séparés de leurs parents.
Non, ils vont être au milieu. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin, voisin.
Tu vas imaginer que je vais pas retomber amoureuse.
Tu vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui va te faire 2 enfants.
Oh, et voilà, le pire.
Bravo.
Vous avez dit tous les deux à table.
Montez.
Rouge, c'est pas ok?
Vous devriez peut-être voir quelqu'un.
Ah, mais je vois quelqu'un.
Le voir plus souvent, alors?
Ok.
Ok. On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été partenaires, et maintenant on est une famille.
Du côté des ressorties, le ciné-café Aquarium vous propose ce jeudi soir à 20h45 de voir ou de revoir I Am Not Your Negro, le documentaire de Raoul Peck réalisé l'an dernier à partir de textes et d'interviews de l'écrivain américain James Baldwin et qui retrace l'histoire des luttes sociales et politiques des Afro-Américains.
If any white man in the world says give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him.
The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
I'm a black man in a white world.
Most of the white Americans I've ever encountered surely have nothing whatever against Negroes.
Et puis comme chaque semaine, nous retrouvons donc le conseil de sortie de Flavien Poncé, de nos partenaires des Cinémas Lumière.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Dovlatov. Voilà, alors que le cinéma russe a été longtemps un des plus importants du monde, il faut avouer qu'aujourd'hui, il trouve de moins en moins le chemin des salles françaises. Et c'est une belle occasion du coup, puisqu'avec Dovlatov, qui est le nouveau film d'Alexei German Jr., qui compte avec Pavel Lungin et Andrei Zviagintsev comme un des plus éminents réalisateurs russes contemporains, c'est l'occasion de reprendre des nouvelles de ce cinéma-là qui est extrêmement singulier. Dovlatov, c'est 6 jours dans la vie d'un écrivain russe, journaliste à ses heures pour un journal du parti, dans la Russie soviétique des années 70, celle de Kosygine, journaliste russe qui, pendant 6 jours, va muter pour devenir un écrivain accompli et que la culture russe aujourd'hui, en 2018, considère comme un de ses plus éminents. C'est un film qui montre qu'est-ce que c'est qu'être écrivain, qu'est-ce que c'était que cette Russie-là très particulière, la Russie de Kosygine dans les années 70, et comment on peut arriver à être un artiste, à être créateur dans ce contexte-là. C'est un film qui, en même temps, est assez grave sur ce qu'il raconte et en même temps réussit à être teinté d'un ton assez léger, plutôt splinétique, en tout cas de quelque chose de très doux et de très attachant, notamment grâce à son personnage et à son acteur principal. Je vous invite à venir le voir, ce sera aux Lumières Fourmis et particulièrement le 11 octobre à 18h30 puisqu'on aura beaucoup d'associations russes et de cinéphiles russes dans la salle et qu'en plus, après la séance, il y aura un petit buffet russe pour plonger vraiment dans cette culture-là qui est une culture absolument passionnante.
Я раньше думал, если напишу роман, то соберу мир. Иногда хочу исчезнуть. Был и нет.
Меня зовут Сергей Довлатов.
Журнал «Рукопись» я давал. Вы читали?
8 лет я сказал маме, что буду писать книжки.
Как у редактора? Все будет хорошо. Ерунду какую-то прочь написать.
С тех пор ничего важнее для меня нет.
Ты же можешь гораздо больше, чем журналист заводской газеты.
Я хочу вашу статью о съемках нашего фильма. Просто посмеялись над съемками нашего фильма.
Тут иронии почти нет.
Серег, ты большой человек. Зачем тебе это?
Voilà, et enfin l'événement cette semaine, faut-il encore le présenter ? C'est évidemment le festival Lumière qui commence ce samedi 13 octobre et court jusqu'au 21. Alors, comme chaque année, pour la 10e fois, le festival et toutes les salles lyonnaises, toutes les salles de la métropole, retracent l'histoire du cinéma, projettent les films qui ont fait ses grandes heures et ressortent quelques petites pépites. Cette année, le prix Lumière couronne la carrière de Jane Fonda et ça sera l'occasion de revoir une grande rétrospective qui lui est consacrée, une grande rétrospective consacrée également à son père Henri Fonda et puis bien d'autres rétrospectives. Le projet Godard continue avec toute la filmographie de Jean-Luc Godard en commençant par la fin. Une grande rétrospective consacrée à Henri de Coin pour les amateurs de cinéma français, de ce cinéma français qui a un petit peu disparu sous les attaques de la nouvelle vague mais qui vaut quand même vraiment son pesant d'or avec d'immenses chefs-d'œuvre comme La Chatte ou La Vérité sur Bébé Donge. Et puis la collection Moments d'Hollywood retournera sur la carrière de Richard Thorpe. L'histoire permanente des femmes cinéastes que retrace petit à petit le Festival Lumière se consacrera à la réalisatrice anglaise Muriel Box. Des films à découvrir pour une réalisatrice assez méconnue, il faut bien le dire. Du côté du cinéma asiatique, c'est King Wu qui sera à l'honneur cette année autour d'un certain nombre de films de sabre et le très célèbre Touch of Zen, mais donc bien d'autres également, et puis toute une foule d'invitations, Liv Ullmann, ce qui sera l'occasion de revoir ou de découvrir un petit peu de Bergman, Claude Lelouch, Peter Bogdanovich, Javier Bardem, Biyuna, Alfonso Cuarón, Claire Denis, bref, énormément d'invités de très très grandes projections, plusieurs nuits, dont une consacrée à l'intégrale du Seigneur des Anneaux, également une nuit Sergio Leone vendredi soir, et la projection de clôture sera l'occasion de voir ou de revoir l'immense Les Raisins de la Colère d'après Steinbeck, qui sera projeté en Altony Garnier. Bref, un programme monstrueux comme chaque année que je vous laisse retrouver pour celles et ceux qui n'auraient pas déjà leur place sur festival-lumière.org. On verra si on arrive à le couvrir cette année, mais dans tous les cas, il faut absolument profiter de cette occasion unique dans le monde de redécouvrir le patrimoine du cinéma.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I ain't got no gun and I'm coming out. Soldier.
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux, 99e du nom, avec cette semaine Rémi Cerda, Maë Burla, Mathilde Grasset. On se retrouve donc la semaine prochaine en plein festival pour fêter très très vite le numéro 100 avant peut-être un peu plus de festivités. Et bien sûr, on vous suggère de commenter, de réagir sur la page de l'émission et sur notre page Facebook D'étoiles plein les yeux sur Transistor. À bientôt.
I want you to calm down.